C'est une chose d'aller à l'église. C'en est une autre de vivre ce qu'on vient de chanter. Vous en êtes conscient? Et je voudrais ce matin qu'avant la Sainte Cène, on ait l'occasion de donner, on ait l'occasion, oui, à ceux qui sont vraiment dans cette foi superficielle, superstitieuse, d'avoir la possibilité de prendre une décision pour avoir cette foi vivante. J'aimerais qu'on lise dans 1 Jean au chapitre 5. Je vous ai demandé à plusieurs reprises de faire quelque chose que je trouve bien, c'est de vous lever pour lire un texte. J'espère que vous avez la joie d'avoir pris votre Bible. Quelle grâce. Si vous saviez, je vais vous dire une chose, j'en suis sûr, on est les gens les plus heureux de la terre. Les plus heureux de Toulouse. Croyez-moi, ils ne sont pas dans les palaces de Saint-Tropez, les plus heureux, ils ont la foi en Dieu. 1 Jean chapitre 5, et je le pense vraiment, ce n'est pas une paraphrase. Hein. 1 Jean chapitre 5, verset 1er. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Vous restez assis, debout, pardon, et on lit dans Romains au chapitre 4 le témoignage d'Abraham, comment cet homme a été fortifié. C'est ce que Dieu veut, mes frères et sœurs. Romains chapitre 4, verset 16. Je ne sais pas si vous voulez ressortir de ce lieu de culte fort. Vous voulez être fort? Ce n'est pas une question de personnalité, de caractère, de sentiment, d'émotion. C'est une question d'obéissance à la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la personnalité, croyez-moi, et le caractère. Romains chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant ainsi, contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, je répète, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Je répète, mes frères et sœurs, c'est sérieux cette affaire. Il fut fortifié par la foi, comment ? En donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Ne pas faiblir dans la foi. Vous savez, depuis mardi soir, je pense à une chrétienne de l'église qui n'est plus là, qui s'est refroidie, qui a vu sa foi défaillir, parce que je pense à la parole de Jésus qui a prié pour Pierre et qui a dit, tu vas être criblé. Tu vas être criblé comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et cette sœur, elle a marché avec Dieu pendant 30 ou 40 ans et elle vient de défaillir. Et c'est vrai que c'est quelque chose de terrible de savoir que Jésus va bientôt revenir et des gens qui vont l'abandonner juste avant. C'est comme ça que ça risque de se passer, hélas. Et c'est vrai que nous vivons des temps difficiles, mais ça fait pitié de voir quelqu'un qui marche avec Dieu 20, 30, 40 ans et peut-être que quelques mois, je ne sais pas moi, avant l'enlèvement, la personne voit sa foi défaillir. Béni soit Dieu qui prie pour nous. Des fois, on doit prier les uns pour les autres et l'église doit être une maison de prière. Mais mes frères et sœurs, heureusement que le Seigneur intercède pour nous à la perfection. Vous savez que le Seigneur prie pour vous? Est-ce que vous le savez? C'est écrit que le Seigneur, dans son rôle de souverain sacrificateur, assis sur le trône de la grâce, eh bien, il intercède pour nous, ses enfants. Et nous pouvons le remercier pour cela aussi. Vraiment de ce que Jésus intercède pour nous. Oui, beaucoup de chrétiens défaillent. Pierre était quelqu'un de bien. Mais voyez, il ne se connaissait pas lui-même. Il croyait qu'il était plus fort que les autres. C'est pas un reproche, Dieu ne lui a pas reproché. Il croyait qu'il pouvait lui faire les choses à sa façon et aller jusqu'au bout. Et Jésus lui a dit, mais avant que le coq ne chante trois fois, avant que le coq ne chante deux fois, tu me renieras trois fois. Il aurait pu dire, non, le diable t'a réclamé, mais moi je vais prier et le diable ne te criblera pas. Est-ce que le Seigneur pourrait empêcher qu'on ait des épreuves? Est-ce que Dieu pourrait empêcher les épreuves? Ben oui, ben c'est clair. Dieu pourrait empêcher toutes les épreuves. Je ne sais pas ce qu'on deviendrait. Je ne sais pas dans quel état spirituel on serait si on n'était que des enfants gâtés. Vous avez vu les enfants gâtés? Comment ils sont? Ils sont comment? Impossible. Qui c'est qui a dit impossible? C'est le mot qu'il fallait, Madame Guillaume. C'est exactement le mot. Eh bien, c'est ce que... Déjà que quand on est éprouvé, on n'est pas toujours capable. Mais mes frères et sœurs, une chose est certaine. Je vais vous poser deux ou trois questions. Il faut vous répondre à vous, ne répondez pas à haute voix. Qu'est-ce que c'est qui est le plus important pour vous? Être béni ou faire des progrès? Les deux, oui. C'est bien. En plus, c'est ça. C'est bien. Vous savez, si vous obéissez à Dieu, vous serez béni. Vous le croyez? Si vous obéissez à Dieu, vous serez béni. Cette nuit, je me suis réveillé. Je ne sais pas si c'était une prophétie ou si c'était simplement une parole pour que je partage avec vous. Mais vraiment, j'ai été poussé à lire l'histoire d'Abraham quand il a été mis à l'épreuve. Vous savez, quand il est dit, Dieu mit encore Abraham à l'épreuve. Et il lui a demandé quelque chose d'insensé. Et le lendemain, il a obéi. Et il l'a fait. Il n'a pas attendu. Et vous savez, la vraie foi... Dieu me dit quelque chose, je le fais. Il y a des gens qui se sont en enfer aujourd'hui, parce que quand Dieu leur a parlé, ils ont reporté. Leur cœur s'est endurci. Il y a des gens qui s'imaginent, parce qu'ils viennent à l'église, ils attendent, mais en vérité, vous ne faites qu'une chose, c'est que vous vous endurcissez, si vous n'obéissez pas. Vous imaginez que parce que vous avez compris la prédication, votre cœur est tendre, ce n'est pas vrai. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, et que vous n'obéissiez pas, la Bible est catégorique, vous endurcissez votre cœur. Et quand Dieu va voir Abraham obéir, et qu'il va pourvoir, parce que quand on obéit, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas compris ça. Quand vous obéissez, Dieu pourvoit. Vous pouvez chanter en boucle que Jéhovah, on a un cantique là, tu es Jéhovah, Jiré, tu es Jéhovah, Shama, tu es Jéhovah, Elohim, tout ça. On répète les caractères du nom du Seigneur. Tu es Jéhovah, Jiré, c'est-à-dire tu pourvoiras. Mais ce n'est pas pour ça qu'il va pourvoir. Mais Dieu a dit à Abraham, parce que tu as obéi, je te bénirai. Vous entendez? Et la foi, c'est l'obéissance, mes frères et sœurs. Et je suis... peiné de voir non seulement que des chrétiens rétrogradent, mais les chrétiens sont en vrac, comme on dit, parce qu'ils ont peur. Mes frères et sœurs, Jésus a donné des commandements. Et il a dit, n'ayez pas peur du lendemain. C'est lui qui l'a dit ou c'est moi? Si c'est moi qui le dis, qui invente une parole, vous dire, ben non, mais c'est lui. Mais quand Jésus dit, n'ayez pas peur du lendemain, ça veut dire qu'il pourvoira si vous obéissez. Et je voudrais ce matin aider, pardon, ceux qui n'ont pas cette foi. Vous êtes là, je le sais, je sais très bien que ça peut arriver, parce que ça m'est déjà arrivé. On peut être là sans avoir cette confiance, parce que la foi, c'est une confiance totale. Vos yeux sont fixés sur Dieu et vous ne pouvez pas faire autrement que de lui faire confiance. Et je vous assure, quand la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, laissez-moi vous dire que quand vous écoutez certains chrétiens, vous voyez bien qu'ils ont perdu la foi. Même si certains parlent en langue, même si certains servent Dieu, mais on peut prêcher même. Mais vous savez, moi j'ai prêché, ça m'est arrivé de prêcher, écoutez bien. C'est pas le cas maintenant. Mais ça m'est arrivé de prêcher, de dire des choses mais correctes bien sûr, et de ne pas le vivre. Quand je prêchais, je me souviens à Tahiti une fois, j'étais accroché pour pas tomber. Je m'accrochais pour pas tomber tellement j'étais fatigué, ça vous donne une idée. Et Dieu m'a mis à cœur, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et moi j'en guissais qu'une chose, c'est que la grignon ça sert pour aller au lit. Mais je ne le vivais pas, je ne le vivais plus, j'y croyais sans le croire, je le croyais parce que c'est la parole. Et je sais qu'on peut être dans une église, prêcher des choses et ne pas les vivre. Mais mes frères et sœurs, le Seigneur, il nous a donné la foi à tous. À tous les hommes, il a donné une mesure de foi. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit où? Il a donné à tous les hommes une mesure de foi. Tu le chercheras. Il a donné à tous les... Et si vous dites, moi j'ai pas la foi, c'est que déjà vous voulez pas obéir à Dieu. C'est tout. Si vous dites, mais moi j'ai pas la foi, c'est un prétexte. C'est comme les gens qui disent, je suis athée, Dieu n'existe pas. Oui, c'est ça, ça les arrange bien. Ça les arrange bien. Jésus, Dieu n'existe pas, donc Jésus n'existe pas, et il n'y a pas de problème de péché, je fais ce que je veux. Mes frères et sœurs, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. On a tous la pensée de l'éternité. Et même si vous venez pour la première fois, pour voir, pour observer, pour écouter, et que vous dites, oui, moi je veux voir ce qu'il dit ce pasteur, écoutez-moi bien. Vous avez la foi, une mesure de foi, et vous avez la pensée de l'éternité. Vous ne pensez pas un instant que vous allez vous présenter devant Dieu et que vous allez pouvoir dire qu'il ne vous a pas donné la foi, il vous a négligé. Ce n'est pas vrai. Dieu n'oublie personne. Il vous a donné une mesure de foi. Alors, mes frères et sœurs, les épreuves, il faut les accepter, les épreuves, toutes. Il faut les accepter. Ce n'est pas facile. Quelle est la prochaine épreuve qui va nous arriver? Vous la connaissez, vous, la prochaine épreuve? Dans quel domaine? Dans quel domaine je peux être éprouvé? Dans quel domaine? La Bible dit qu'il y a des diverses épreuves. Des diverses épreuves. Dans quel domaine on peut avoir une épreuve? Est-ce qu'on peut avoir un problème dans le couple? Est-ce que ça peut arriver dans le couple? Il faut être honnête. Dans le couple, même dans la vie affective, dans la vie sentimentale, dans la vie intime. Oui ou non? On peut avoir un problème avec ses enfants. Oui ou non? C'est dur ça, les problèmes avec les enfants. On peut avoir un problème avec les voisins. On peut avoir un problème avec une sœur. Ça peut arriver. Est-ce que ça peut arriver? On peut avoir un problème avec des chrétiens, des voisins, le travail, des collègues. Mes frères et sœurs, écoutez-moi. Moi, je suis persuadé que Dieu contrôle tout. Et qu'il faut accepter toutes les épreuves. Il y a des gens qui ont perdu la foi et qui la perdent. Et qui abandonnent. Parce qu'ils n'acceptent pas telle ou telle épreuve. Mes frères et sœurs, vous ne savez pas peut-être que vous avez un problème, mon frère, avec dans l'intimité de votre foyer. J'écoutais bien. Mais vous feriez mieux de l'accepter. Parce que c'est peut-être Dieu qui vous éprouve. C'est sans doute à 100% Dieu qui vous éprouve pour que vous compreniez quelque chose. Plutôt que de vous énerver contre votre femme, commencez à vous mettre à genoux, à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Plutôt que de faire la tête à votre femme. Ou l'inverse. Vous savez, les épreuves, c'est pas facile, les épreuves. Vous allez me dire, je vais vous donner un exemple. Lorsque Paul a été éprouvé, Paul, c'était quelqu'un, Paul. Est-ce que c'était quelqu'un, Paul? L'ancien persécuteur, l'ancien blasphémateur, l'ancien mauvais bonhomme, vraiment. Qui est devenu cet homme de Dieu. Il a eu des révélations, en veux-tu, en voilà. Et au bout d'un moment, il dit, voilà, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil. Orgueilleux. Est-ce que Paul pouvait devenir orgueilleux? Est-ce que ça aurait été dommage pour le royaume de Dieu que Paul devienne orgueilleux? Est-ce que franchement, ça aurait été dommage? Bien sûr, c'est évident. Est-ce que vous vous rendez compte, ça aurait été terrible que cet homme tombe dans l'orgueil. Et Dieu a envoyé un ange de Satan pour le souffleter, pour qu'il ne tombe pas dans l'orgueil. On pense tous que c'est un problème aux yeux, parce qu'il se faisait écrire les lettres. Quand il écrit aux Galates, il écrit avec des grosses lettres, ça devait aller un peu mieux, où il n'avait personne. Mais on pense tous, tout le monde pense que c'était un problème aux yeux. En tous les cas, c'était une épreuve. Pour lui, c'était une épreuve en plus. Et il a prié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit, ouais, puisque c'est ça, j'ai une épreuve, c'est pas normal, moi, pasteur, je perds la vue, c'est pas normal. Il a prié trois fois. Il n'a pas prié, je pense, juste, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il a dû en faire un sujet sérieux. Est-ce que c'est la foi? C'est ça, c'est je prie jusqu'à ce que j'ai la réponse. Est-ce que Dieu vous la donnera, la réponse? Mais oui. L'autre fois, je vous ai dit, quand les Corinthiens se chipotaient, ils étaient redevenus charnels, donc ils en étaient arrivés à se faire des procès dans l'église. connaissez cette affaire. Parce que l'égoïsme et le non-pardon fait que les gens se font des procès. C'est comme ça. C'est ridicule, mais ça indique que les gens sont charnels. Quand les gens sont charnels, ils ne pardonnent pas. Si vous ne pardonnez pas, mettez-vous bien en tête que vous êtes charnel. Si vous êtes égoïste, vous êtes charnel. Si vous pensez qu'à vous, si vous ne pensez pas à bénir les autres, vous êtes charnel. Écoutez, écoutez les études que je fais le mardi soir sur les Corinthiens et vous verrez combien c'est évident. Donc l'apôtre Paul, il voulait être utile, il était utile, mais voilà, il risquait de s'enorgueillir. Et ça aurait été dommageable pour le royaume. Et Dieu lui envoie une écharde qu'il va garder tout le temps. Mais il va chercher Dieu. Et Dieu va lui donner une parole. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Ma grâce te suffit. Et il va se plaire dans les faiblesses. Et quand vous lisez ce que vous lisez, je me plais dans les faiblesses, je me plais dans les outrages. Car c'est quand je suis faible que je suis fort. Vous connaissez ce texte? Nous, on est là. Mais attention! Faites attention, mes frères et sœurs, quand vous allez sur Internet, ou même moi, je vois, je reçois toutes les semaines, je reçois des invitations à des séminaires, et il faut être fort, et il faut avoir une vision. Le dernier, c'était quoi? Oui, ce que vous rêvez. Si vous rêvez, si vous rêvez quelque chose, Dieu va vous le donner. Moi, j'ai pas lu ça dans la Bible. Mais c'est des fausses doctrines, ça. Et les chrétiens, des assemblées de Dieu, courent écouter ces pasteurs. Qui ne sont que des faux prophètes, c'est pas écrit ça. Oui, c'est écrit que Dieu peut donner infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, mais vous lirez le contexte et vous allez voir que c'est un autre problème. Donc je disais que quand on veut une réponse, l'autre jour je parlais qu'on jugera les anges. Vous le savez qu'on jugera les anges? Et je me disais, mais combien il y a d'anges? Combien il y a d'anges? Comment? Cette nuit, je ne dormais pas. Et je lisais dans le prophète Daniel. Et c'est écrit. Qui c'est qui peut me dire combien il y a d'anges? Non, un nombre précis, là, c'est trop. Non. Qu'est-ce qui est écrit? Non, mais c'est pour vous expliquer ce qu'est la foi. Quand vous voulez savoir, si c'est dans la Bible, le Seigneur, il va vous le montrer. On le lit? Vous voulez le lire? Combien il y a d'anges? C'est important, ça. Daniel, chapitre 7, verset 10. Si quelqu'un est une calculatrice, s'il vous plaît, calculez-moi combien ça fait. Je pense que ça fait beaucoup de monde. Daniel 7, en plus que c'est après, c'est des anges, des vrais anges, pas les anges déchus. Hein. Daniel chapitre 7, verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient. Déjà, ça fait million. 1000 milliers, ça fait 1 million. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Voilà la quantité d'anges que Dieu a créés. Alors il faudra me calculer, 10 000, combien ça fait? 10 000 millions, je pense que ça doit faire quelques milliards. Oui ou non? Quelques milliards de milliards, non? Mais quelqu'un me le calculera, il y a trop de zéros avec là. Oui, avec le téléphone, vous ne pourrez pas. J'ai essayé, moi, cette nuit avec le téléphone, je n'y suis pas arrivé. Mes frères et sœurs, et tous ces anges, il nous protège. Vous le croyez que Dieu a envoyé des anges? Il nous protégeait avant qu'on soit sauvés. Je vous l'ai souvent dit ça. Les anges sont des serviteurs de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. C'est écrit. Les anges sont des serviteurs. Vous vous rendez compte quand vous étiez païen? Vous vous souvenez quand vous étiez païen? Vous vous moquiez de Dieu? Je ne sais pas, enfin, on était différents. Mais vous vous rendez compte, mais c'est pas une bénédiction ça? On se moquait de Dieu, on se moquait des chrétiens, moi combien je me suis moqué de l'église en général. Et les anges nous gardaient. Je me souviens de ce jour où j'avais pris un coup de fusil, à bout portant. À bout portant. Quand j'en parle, j'ai l'impression de sentir le souffle des plombs dans les cheveux. Et je sais que le Seigneur m'a gardé ce jour-là. Je pense qu'il y a un ange qui doit avoir une main costaud. Mais je sais que c'est vrai. Et si on est tous vivants aujourd'hui, ne croyons pas parce qu'on a une bonne santé, ou parce qu'on a été meilleur, ou parce qu'on conduit bien, etc. Si on est ici ce matin, c'est parce que Dieu nous a gardés, que les anges du Seigneur nous ont gardés. Croyez-moi, mes frères et sœurs, si on est debout ce matin, c'est parce que Dieu nous garde. Ce qui est important, ce n'est pas que Dieu nous reprenne aujourd'hui, ou demain, ou dans 3 semaines, ou le jour de l'enlèvement. Ce qui est important, c'est que nous entendions ce que Dieu a à nous dire. C'est que nous vivions vraiment par la foi. Est-ce que je vis par la foi? La foi, il y a des gens, ils prient, mais ils ne savent pas si leur prière dépasse le plafond. Ils prient, ils sont là, mais je ne sais pas si Dieu m'entend. Moi, je ne prie plus. Mes frères et sœurs, si vous parlez comme ça, si vous ne vous ressaisissez pas, vous rétrograderez. Ou si vous n'êtes pas déjà rétrograde. Parce que ce n'est pas parce qu'on est un fils prodigue, qu'on est loin de Dieu. Dans la parabole du fils prodigue, combien il y avait de fils prodigues? Un ou deux? Moi, je vais vous dire, il y en avait deux. Parce que le fils aîné, il n'est pas parti. Mais quand on voit comment il était, comment il parlait, il était aussi prodigue que celui qui avait eu le réflexe de partir. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'église qu'on n'est pas rétrograde. Et normalement, si on a un peu de sensibilité, on devrait quand même le savoir. Si le monde nous attire, si vraiment le monde a cette attraction, et oui, vous êtes rétrograde. Et vous savez ce que Jésus a dit? Il reçoit la parole avec joie, mais dès que survient une tribulation à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. On peut se dire, mais c'est pas possible. Il reçoit avec joie. Peut-être que ce matin, quelqu'un dira, oh, mais c'est une joie pour moi d'être là, de participer à ce culte. Oui, mais comment vous réagirez la première épreuve qui va vous arriver? Je le répète, ça peut être dans le couple, ça peut être dans le foyer, les enfants, tout, la santé. Est-ce que ça peut arriver qu'on soit frappé dans notre santé? Eh oui, ça peut arriver. Est-ce qu'on peut avoir une grosse castagne, comme on dit à Toulouse, dans la santé? Est-ce que ça peut arriver? Non, je ne comprends pas, Seigneur, je te sers et je suis un peu en mauvaise santé. Mais peut-être que c'est bien. Peut-être que vous allez vous arrêter et vous mettre devant Dieu. Parce que vous arrêtez, Dieu n'arrive pas à vous attraper. Vous faites que courir. Vous n'avez pas le temps. Mais le Seigneur voudrait que vous ayez du temps. Et je repense à la prophétie que j'ai donnée. Il y a une jeune fille dans l'église, une jeune fille, une femme, que Dieu veut saisir. Alléluia. Et cette femme, laissez-moi vous dire qu'il va falloir qu'elle se tienne devant Dieu. Et elle va être une bénédiction pour le royaume. Et bien peut-être que cette femme, elle court à droite, elle court à gauche, parce qu'il y a les gosses, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a... Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. C'est écrit dans la Bible plusieurs fois. Arrêtez-vous. Arrête-toi. Et je te ferai entendre la parole de Dieu. Comment voulez-vous que Dieu nous parle? Comment voulez-vous que Dieu nous parle si on ne sait pas s'arrêter? Oui, trop de chrétiens ont une foi superficielle. C'est grave parce que le juste, il vivra par sa foi. Vous avez besoin ce matin de la foi des frères et sœurs. C'est bien que les gens vous fassent du bien. Oui ou non? C'est bien, exhortez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, etc. On voit que Dieu veut que les uns les autres nous nous aimions, nous nous encourageions, nous nous exhortions. C'est écrit ça, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Est-ce que c'est écrit? Voilà, est-ce que vous faites du bien aux autres? Soyez honnêtes. Est-ce qu'en ce moment vous faites du bien aux autres ou est-ce que vous les fatiguez? Ils me fatiguent. Mon mari. Il me fatigue. Il m'énerve. Il est chrétien? Oui, il est chrétien. Il m'énerve, mon mari. Ça vous est jamais arrivé, ça? Ça s'est jamais présenté? Vous avez la chance. Est-ce que ça peut arriver dans un foyer? Est-ce que ça peut arriver de fatiguer quelqu'un? Ben oui, pourquoi on fatigue quelqu'un? Parce qu'on ne va pas bien. Soyez honnêtes. Et lorsque Jésus a entendu cette prière qui n'en est pas une, mais enfin bon, on peut la considérer comme une prière. Lorsque Jésus dormait dans la tempête, et ils ont dit, mais maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ils avaient peur. Mais est-ce que Jésus, ça me fait rire parce que c'est impossible, est-ce que Jésus aurait pu se noyer ce jour-là? Imaginez-vous dans le Jérusalem Post, hier, 13 hommes sont morts dans le lac de Génésareth, dont le fameux Jésus qui faisait des miracles. Est-ce que franchement, Jésus pouvait mourir noyé ce jour-là? Mais c'est impossible. Et ils auraient attendu les bras croisés, est-ce qu'ils auraient coulé? Mais non. Sérieusement, vous comprenez ce que je veux dire? Jésus ne pouvait pas mourir noyé dans le lac. C'est impossible. Mais eux, ils ont cru que... Parce que, voilà, c'est comme ça. Alors, ils avaient entendu plusieurs fois que le Fils de l'homme devrait aller mourir à Golgotha, etc. Mais eux, ils ont eu peur. Réveille-toi, Seigneur, mais réveille-toi, tu vois pas qu'on est en train de mourir? Et Jésus se lève. Qu'est-ce que j'aurais aimé voir ça? Et Jésus se lève, il a dû prendre sa main, Et il a parlé à la mer. Et il n'a pas fait une prière de 3 heures et demie. Silence, tais-toi. Et j'ai lu une version, je ne sais pas où, laquelle c'est, qu'ils ont rajouté. Alors, je ne sais pas si c'est bien. Il est écrit, tais-toi et laisse mes amis tranquilles. Je ne sais plus quelle version c'est. Mais j'ai apprécié, parce que, je ne sais pas, vous savez, il y a des choses qui nous dépassent. Mais moi, j'ai trouvé que c'était merveilleux quand même. Tais-toi. Et tout d'un coup, le calme est revenu. Et Jésus leur a pas dit, vous avez bien fait de me réveiller. Vous avez bien fait. Il leur a dit, où est votre foi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous aussi, vous pouviez l'apaiser, la mer. Mes frères et sœurs, on a chanté cette phrase de Jésus. On a chanté un petit cœur qui est immense dans sa profondeur. Et foi en Dieu. Et confiance en Dieu. Quand tu pries, mais quand tu ne pries pas. Il y a des gens, ils vont bien quand ils prient. Oh, ce matin, j'ai prié une heure. Oh, je me suis fait un bien fou. Et les autres 23 heures. Ah ouais, c'est pas, ça va pas. Parce que les gens, ils ne se confient pas en Dieu, ils se confient dans la prière. Et je peux vous dire que ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Il n'est pas dit « ayez foi dans vos prières ». Il est dit « ayez foi en Dieu ». Et bien sûr qu'il faut prier. Et quelqu'un qui a foi en Dieu, il a besoin de prier. Il aime s'approcher de son Seigneur. Il a besoin de s'approcher de son Seigneur. Il en a besoin. Si vous n'aimez pas vous approcher de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Si vous n'aimez pas la prière, c'est vrai que ça peut être un combat. Parce qu'il y en a un qui doit se charger de tout faire pour qu'on n'aime pas la prière. Mais quand même, mes frères et sœurs, quand vous aimez quelqu'un, est-ce que vous n'avez pas envie d'être avec lui? Sérieusement. En plus de quelqu'un, moi je trouve qu'il est grand. Très, très grand. Vous n'avez pas envie de vous retrouver avec le Seigneur pour être fortifié. Parce que c'est quand même cette façon-là qui nous rendra forts. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus, quand il parle de la fin des temps? Vous avez vu tout ce qui arrive? Et laissez-moi vous dire que ça va s'accélérer. Je vous l'avais dit quand en France on a eu l'intelligence de voter pour le mariage homosexuel, combien les choses allaient s'arranger. Je vous l'avais dit, vous vous souvenez? Et ça va s'arranger, croyez-moi. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Jésus l'a dit que ça serait exactement comme du temps de Noé où la terre était remplie de violence, remplie de corruption. C'est écrit, tous les hommes pensaient qu'à ça. Sauf bien sûr Noé, ses enfants et ses belles-filles. C'est écrit. Et c'est ce qu'on va voir. Et ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, ça devrait franchement nous jeter à genoux. Mais presque dans la louange. Parce que mes frères et sœurs, si vous méditez, comme je vous l'ai dit dernièrement, Ézéchiel 38, Ézéchiel 39, et vous comprenez quelles sont ces nations, vous allez comprendre ce qui est en train de se passer au-delà de tout ce qui se passe en vérité. Tout ça, c'est une espèce de nuage, archi important, archi noir peut-être, mais il y a autre chose qui est en train de se préparer. Et nous devons, mes frères et sœurs, veiller et prier afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur toute la surface de toute la terre. C'est Jésus qui a dit, veillez et priez afin que vous ayez la force. Là, on veille, c'est ce qu'on est en train de faire. Quand on loue, quand on prie, on veille, tenons nos lampes prêtes. C'est quoi pour vous tenir ces lampes prêtes? Vous l'avez chanté tout à l'heure? Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous. Pour le jour où la trompette va sonner, la réunion avec l'époux, mes frères et sœurs, et quand vous lisez la Bible, quand vous la lisez, pas pour la lire, mais quand vous lisez la parole de Dieu pour comprendre, avec un cœur ouvert, avec ses oreilles spirituelles, quand on chantait ce matin, je ne sais plus lequel, le dernier cantique, je pensais à ce verset, quand Jésus dit, les morts entendront sa voix. Les morts. C'est écrit ou c'est pas écrit? Les morts, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'il y a des oreilles spirituelles. Un mort, est-ce qu'il peut entendre un mort? Non. Humainement, ses oreilles physiques sont fermées à jamais. Mais il y a des oreilles spirituelles. Et quand vous lisez, nous devrions tous entendre. Mes brebis, elles connaissent ma voix. Mes brebis, elles me suivent. Et quand Jésus dit, veillez et priez afin que vous ayez la force. Quand vous veillez, quand vous lisez, vous prenez un texte. Vous voyez, moi ce matin j'ai pris Daniel, je ne dormais pas, j'ai pris le prophète Daniel, et j'ai vu que des anges, il y en avait quelques-uns. Je voulais savoir. Et qu'un frère m'avait dit, mais lisez Daniel, vous le saurez. Mais je ne me rappelais plus. Vous voyez, pourtant je connais la Bible. Mes frères et sœurs, quand vous veillez, quand vous lisez votre Bible, quand vous priez de tout votre cœur, votre âme se remplit d'huile. Alléluia. Et c'est comme ça que quelqu'un, il est fort. Quelqu'un, il est fort quand il fait ce que Dieu dit. Quand Dieu dit quelque chose, mais croyez-le. Vous le croyez qu'il y a 10 000 millions d'anges ? Oui. 1 000 millions d'anges plus 1 million. Vous le croyez que Dieu a pu créer tous ces anges ? Ça fait du monde, je vous dis. On va voir le nombre exact. Vous croyez qu'il y a tous ces anges ? Que dans le ciel, il va falloir leur dire bonjour à tous ? Vous le croyez tout ça ? Ce que Dieu dit, il faut le croire. Moi, je suis peiné de voir tant de chrétiens qui remettent en question la parole de Dieu. Oui, mais c'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden quand Ève a entendu « Oui, mais Dieu a-t-il réellement dit ?» C'est vrai qu'elle ne le tenait pas de Dieu. Elle le tenait de son mari, qui lui le tenait de Dieu. Et il vaut mieux le tenir de Dieu. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des convictions. C'est bien de le tenir de quelqu'un qui est crédible. C'est Adam qui a dit, hey, voilà ce que Dieu m'a dit, il ne fallait pas toucher de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, car le jour où on la mangerait, eh bien, le jour où on la mangerait, eh bien, on mourrait. Mes frères et sœurs, quand Dieu dit quelque chose, il faut le croire. Et si vous voulez être debout quand Jésus va revenir, parce que moi, franchement, mon souci, c'est vrai que c'est les pécheurs. C'est vrai. Une église, elle a le fardeau des âmes. Une église, elle a besoin d'évangéliser. Et cet après-midi, il y a une réunion d'évangélisation. Et il y a des instructions pour ceux qui veulent prendre le baptême. Et accrochez-vous, mes frères et sœurs. Parce que je peux vous dire que quand l'église va être enlevée, pour moi, il n'y en a pas pour longtemps. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. Réconciliez-vous. Vous qui n'êtes pas encore baptisés, ne vous baptisez pas pour vous faire baptiser. Ne vous baptisez pas pour vous faire baptiser. Je me rappelle quand je suis arrivé, il y avait un jeune ici dans l'église qui jouait du violon. Il n'était pas baptisé. Alors je lui ai dit, écoutez, moi, je ne veux pas que les gens qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ soient sur l'estrade. Parce que pour moi, la louange, c'est quelque chose de sérieux. La louange, ce sont des gens qui ont accepté Jésus-Christ, qui sont sauvés, oui ou non. Si on n'a pas Jésus, qui c'est notre Père ? Je vous l'ai déjà dit. Alors elle m'a dit, en plus il s'est énervé, il m'a dit, mais si c'est ça, je me fais baptiser. J'ai dit, non, il ne faut pas vous faire baptiser. Il vous faut vous convertir. Non, 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 mais si vous voulez, monsieur Gros, je me fais baptiser, comme ça je pourrais jouer du violon. J'ai dit, non, tu ne joues pas de violon. Tu en joues à la maison si tu veux, mais tu en joues pas sur l'estrade. Et le jour où tu auras donné ton cœur au Seigneur, alors je vais me faire baptiser. Non. Et toute la famille est partie à cause de ça. Voyez, plutôt que de bien réagir. Mes frères et sœurs, les choses de Dieu, elles sont sérieuses. C'est pas parce que... Et en plus, le gars, on les ment, on les trompe parce que le gars, il se croyait chrétien. Tu dis donc, tu n'es pas chrétien. Et l'Église, c'est sérieux, l'Église. Les gens doivent être amenés à une véritable foi. Ce matin, nous devons faire un choix. Ce matin, je fais le choix d'avoir une foi vivante. Est-ce que vous ne voulez pas cette foi vivante ? Cette foi qui fait mouvoir le bras de Dieu ? Cette foi qui fait que Dieu va vous parler quand vous lirez sa parole ? Cette foi qui fait que vos prières vont être exaucées ? Il y a déjà dit, moi je ne prie pas, je ne sais même pas si... Ben oui, ils sont dans le péché. Ils sont dans le péché. La seule prière que Dieu exauce quand on est dans le péché, c'est « Seigneur, je te demande pardon ». C'est la seule prière qu'il faut faire quand on est dans le péché. Si vous vivez dans le péché, si vous êtes dans le mensonge, dans la paresse, dans l'égoïsme, dans la pornographie, j'en sais rien, si vous êtes dans tout un tas de péchés, du plus petit au plus grand, demandez-lui pardon. Et Dieu vous pardonnera. Mais ne jouons pas la comédie. Parce que mes frères et sœurs, ça... Mais non, mais c'est grave, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qui est en train de se passer, parce que moi je ne regarde pas qu'à l'église de Saint-Agne, je pense à toutes les églises. Mais mes frères et sœurs, allez voir les actualités chrétiennes dans le monde francophone, mais vous allez tomber sur le derrière. Et ça c'est l'apostasie, et c'est le grand signe que Jésus va revenir. Alors il faut que je sois fortifié, fortifie-toi. Abraham a été fortifié. Si vous lisez votre Bible, oh je lis, je vous l'avais dit l'autre fois, vous avez lu, ah je lis parce que j'ai peur que vous me demandiez si j'ai lu la Bible dans la semaine. Ah, ça ne m'a pas fait rire. La personne elle lisait parce qu'elle était dans une église avant où le pasteur l'a sortie, leur demandait souvent, tu as lu ta Bible cette semaine? Alors les gens ils lisaient la Bible pour pouvoir dire au pasteur, ben cette semaine j'ai lu ma Bible. Je crois que si c'est pour ça, je ne sais pas si à quoi ça sert. Je lis ma Bible parce que j'ai besoin. J'ai besoin de me nourrir. J'ai besoin de sa parole. Je sais que c'est la parole de Dieu qui donne la foi. La victoire, on l'a lu, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et quelqu'un, il est fort, non pas parce qu'il est meilleur que l'autre. Vous savez, dans le monde, c'est ça. Oh, celui-là, il a un caractère. Celui-là, il a du tonus. Tiens, il joue bien de la guitare. Ah oui, il joue bien de la guitare. Oui, il parle bien. Ah oui, il parle bien. Ah bien, on va le mettre meneur de chant. Oui, c'est le casting, ça, dans le monde. On ne met pas quelqu'un sur l'estrade parce qu'il joue de la guitare. On met quelqu'un sur l'estrade parce qu'il est spirituel. Même s'il bégaye de temps en temps, est-ce que c'est grave? Vous savez, quand quelqu'un est inspiré, même s'il bafouille, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il y ait la pensée de Dieu. Ce qui est important, c'est que tout à l'heure, on sorte de ce lieu de culte en disant « Oui, je choisis tout à nouveau d'avoir une véritable foi. » Ce n'est pas parce que vous venez à l'église que vous allez être sauvé. Il y a des gens qui s'imagineront « Le diable, il est contre les cultes. Le diable, il est contre les baptêmes. Le diable, il est contre la prière. » Mais le diable, il s'en fiche complètement de ça. Par contre, le diable... Il est contre les églises où les chrétiens ont une véritable foi. Il est contre les gens qui se repentent. Il est contre les gens qui vivent dans la sainteté. Parce que c'est eux qui font bouger le bras de Dieu. Et si nous voulons voir le bras de Dieu se manifester, il faut chercher Dieu. Et quand on cherche Dieu, on est fortifié. Alors on pourrait prendre quelques textes, le temps qui nous reste. Quand Paul dit, fortifie-toi dans la grâce. C'est où ça? Comment? Ouais, c'est bien, il y a un début. Alors, c'est dans 2 Timothée chapitre 2. Regardez bien, mais vous pouvez le faire cette semaine. Vous voyez? 2 Timothée chapitre 2. Ce chapitre commence avec, donc, nous sommes des enfants tous, toi donc, mon enfant. C'est un pasteur, mais même si on est des pasteurs, on est d'abord des enfants du Seigneur. Toi donc, mon enfant. Mes frères et sœurs, vous voulez être forts? Eh bien, vivez ces 3-4 versets qu'on va lire. Vivez-les et je peux vous dire que vous serez fort. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. Parce que c'est bien d'avoir la foi. Mais la foi, mes frères et sœurs, elle est dans la grâce. Elle n'est pas dans sa foi. La foi, elle est dans la grâce de Dieu. Alors, vous prenez ce chapitre, vous le lisez et vous regardez à quoi Paul compare le chrétien. Et vous dites, voilà, il faut que je ressemble. Alors, qu'est-ce qu'il dit au verset 3? Bon, premier, c'est un enfant. Souffre avec moi comme un bon soldat. Il y en a des soldats ici. Je sais qu'il y en a quelques-uns. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Voilà, premier point. Si je veux être fortifié dans la grâce, il faut que je ressemble à un soldat. Un soldat, il vit... En collectivité, un soldat, il perd un peu son identité parce qu'on est tous habillés pareil, on est tous coiffés pareil. C'est pas. Franchement, moi, je me rappelle quand je me suis engagé dans l'armée, c'est la chose qui m'a le plus choqué. On était tous habillés pareil, toutes les mêmes baskets. Bouh, que ça me déplut ça. Mais quand on est chrétien, on est quelque part, on est tous ensemble. Les gens nous confondent. Oui, les chrétiens, ils sont comme ça. Vous avez remarqué? C'est pas grave. Je veux être un bon soldat du Seigneur. Je veux combattre le bon combat. Je veux garder la foi jusqu'au bout. Un soldat, il aime la vie de prière. Est-ce que vous aimez vous retrouver avec des frères et sœurs pour prier? Alors c'est vrai, comme on l'a dit ce matin, et je vais le dire parce que je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais ça ne fait rien. C'est une question de politesse. Ne parlons même pas de spiritualité. Quand on prie courtement. Si on était seul... Si vous venez tout seul à l'église, vous pouvez prier une heure, ça ne me gêne pas. Mais quand on est nombreux, sérieusement, est-ce qu'il faut être spirituel ou est-ce que c'est même que de la politesse? Oui, imaginez, il y a un buffet avec des apéritifs, etc. On est là comme ça, on est plus de 250, à côté il y a peut-être 50 personnes. Il y a 80 gosses, imaginez, que je passe un quart d'heure à prendre... T'es règle la Sainte-Seine? Que je passe un quart d'heure à prendre la Sainte-Seine. Non, mais il exagère. Alors bien sûr, quelle spiritualité, je me recueille pour prendre la Sainte-Seine. Quel homme de Dieu. Est-ce que ça ferait sérieux? Mais c'est de la politesse. C'est de l'ordre et de la bienséance. Prier longtemps quand on est nombreux, c'est vraiment un manque de bienséance. Et moi je prie pour que le Seigneur nous donne cette sagesse, cette grâce, que les gens ne soient pas choqués, que l'Église soit une bénédiction. Qui sur la terre peut être une bénédiction aujourd'hui? Le gouvernement? Qui peut être une bénédiction? L'Église. L'Église qui vit dans ces temps difficiles et qui rend un bon témoignage. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont fortifiés. Un soldat. Alors on va pas parler de. Après, à quoi on est comparé? À un athlète. Verset 5. Un athlète. Vous avez vu les athlètes? Moi, une fois, j'ai entendu le témoignage de Teddy Riner. Vous connaissez le championnat de judo, là, qui est le meilleur judoka du monde? Je l'ai entendu 5 minutes aux infos. 6 mois, écoutez bien, 6 mois ou un an avant les Jeux Olympiques. Son frère l'a invité un soir à aller boire un pot et aller au cinéma. Il a dit non, demain il faut que je me lève pour m'entraîner. Un an avant les Jeux Olympiques. Parce qu'il n'y a pas de secret, même s'il est costaud, laissez-moi vous dire que c'est un homme, il est détesté. Après, je ne le connais pas. Mais un chrétien, il s'entraîne, oui ou non? Il aime être avec les frères, mais il aime être seul. Il aime être seul devant Dieu. Un athlète, il combat tous les jours. Alors eux, ils le font pour une couronne corruptible. Mais nous devons le faire pour une couronne incorruptible. Quand on est sérieux. Je pensais ce matin pendant le chant, parce que ça m'y a fait penser, que Jésus a été crucifié, je pensais à la couronne d'épines. Je me dis, quand je vois nous, mes frères et sœurs, ce qui nous attend si on est fidèles, si on est enlevé, parce que les couronnes, c'est pour les chrétiens qui vont être enlevés, les chrétiens qui vont, les ceux qui vont se convertir, les vierges folles et les pécheurs qui vont se convertir après l'enlèvement, ils n'auront pas ces couronnes. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Il y a plein de choses qu'il faut comprendre. Mais vous rendez compte, le Seigneur, il fait que quand on va se présenter devant lui, si on est fidèle, on aura une couronne de gloire, une couronne de justice. Enfin, il y a 4 couronnes. Et vous avez vu ce qu'il a eu comme couronne pour que nous, on ait la nôtre? Vous avez vu ça? Vous savez, vous rappelez? C'était quoi la couronne? Une couronne d'épines. Moi, chaque fois que je me pique en taillant un rosier, j'y pense toujours. Il a été couronné d'épines. Pour qu'on ait cette foi vivante, le Seigneur, il est assis sur son trône, il règne, il voit vos cœurs ce matin, il voit comment vous allez être, il voit comment vous allez réagir. Si vous allez dire, oui, c'était une prédication intéressante, ou non, j'ai une foi qui ne va pas, il faut que je sois fortifié, il faut que je sois ce soldat, il faut que je sois là avec mes frères et sœurs pour prier, il faut que je sois seul dans ma chambre, à chercher Dieu comme un athlète, à m'entraîner. Après, il compare à un laboureur, il doit avoir de la patience, le laboureur, parce qu'il sème et il faut du temps, hein. Le laboureur, au verset 15, oui, le laboureur, c'est au verset 6, merci Béatrice, mais au verset 15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier. Un ouvrier, c'est quelqu'un de spécialisé. Chacun d'entre nous, tiens, toi, tu m'appelles à la flûte irlandaise, eh bien, je m'applique à cet instrument, parce que tu m'as donné ce talent, je veux le faire valoir. Oh, toi, tu m'as donné des mains en or, comme on dit. Eh bien, je veux m'appliquer à faire les travaux dans l'église pour que l'église, elle soit toujours propre. Il y a des églises, ça ressemble à des hangars. Alors, vous allez me dire, mais ce n'est pas le lieu qui compte. D'accord. Mais mes frères et sœurs, vous avez vu les reproches que Dieu fait? Vous lambrissez vos maisons et vous ne vous occupez pas de la maison du Seigneur? Alors, Seigneur, moi, j'ai un don. Moi, je sais ce que c'est. Vous le savez, ce que tu me demandes à moi? Eh bien, je veux le faire. Comme il faut. Parce que je sais que je serai jugé plus sévèrement. C'est écrit pour les pasteurs? Nous serons jugés plus sévèrement. Et on est dans les églises, on est là, on ne réalise pas. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, parce que je ne veux pas que Dieu me reproche cette affaire. Le Seigneur, il va revenir. Vous entendez? Alléluia. Mais il y en a qui ne sont pas prêts, même au milieu de nous. Vous n'êtes pas prêts parce que votre foi, c'est du pipeau, comme on dit. Ce n'est pas de la croyance, c'est de la superstition. Vous vous imaginez que en prenant la Sainte Cène, qu'en venant à l'église, alors qu'en vérité il y a de la haine dans votre cœur, en vérité vous ne pardonnez pas, en vérité vous ne voulez pas obéir. Tout ça, c'est grave. Ne vous imaginez pas que parce que Dieu est bon, Dieu va passer. Ce n'est pas vrai. Dieu est un Dieu de justice et de sainteté. Et les paresseux n'entreront pas dans le royaume des cieux. Vous entendez? Si vous êtes paresseux, vous allez rester là quand Jésus va revenir. Et je peux vous dire que ce qui s'est passé cette semaine, c'est de la bricole à côté de ce qui va arriver. Mais je vais le lire parce qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Dans l'Apocalypse, à l'ouverture des sceaux, ça se situe juste après l'enlèvement de l'Église. Nous, enfin les chrétiens fidèles, on sera aux noces de l'agneau. Quel décalage, quel décalage. Regardez bien comment ça va se passer. À partir du chapitre 6 de l'Apocalypse, la colère de Dieu, elle vient. C'est comme ça. À partir du chapitre 6, je vous encourage à lire ce livre. J'aimerais faire une étude sur l'Apocalypse. Vraiment, je veux la faire. Pour vous indiquer certaines choses. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6 et au verset 17, c'est clair, ça ne peut pas être plus clair. Le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? C'est une question que Jésus pose, c'est à vous, à nous, d'y répondre. Subsistera ceux qui obéissent et ceux qui sont sous le sang précieux de Jésus. Et je m'adresse aux gens là qui sont, il y a des gens, oui, mais j'aimerais faire une expérience avec Dieu, j'aimerais que Dieu me donne un signe. Mais le signe, on ne l'a pas eu le signe? Mais quand, moi, je vous dis, il y a des gens qui vont être en enfer parce qu'ils auront eu, l'intelligence, entre guillemets, croyez-moi. Moi, je voudrais un signe. Esaïe a dit, voici le signe. La Vierge enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Le signe, vous l'avez. Ne vous amusez pas avec ça. Le signe, vous l'avez. La Vierge enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Le signe, on l'a tous. Si Dieu vous nous a donné un autre, tant mieux. Mais le juste, il vit par la foi. Et la foi, ce que Dieu dit, je le crois. Regardez dans l'Apocalypse, chapitre 6, la colère de Dieu a commencé. Alors c'est la preuve que l'Église, elle ne peut pas être sur la terre. D'ailleurs, la preuve, regardez. Chapitre 6, verset 3. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre. Il en sortit un autre cheval roux. Seul, regardez bien, mes frères et sœurs, je ne sais pas si on lit avec le cœur. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Alors, vous voyez la preuve. Si la paix est enlevée de la terre, c'est qu'il n'y a plus l'Église. Tant que Jésus sera sur le trône, Dieu est un Dieu de grâce et de paix. C'est pour ça que toutes les épîtres commencent avec ce verset, que la grâce et la paix vous soient données. Tant que l'Église est sur la terre, il y aura la paix. Le jour où l'Église sera enlevée, la colère de Dieu va venir, il n'y aura plus la paix. Vous avez vu aujourd'hui? Est-ce que vous avez la paix? Là, non mais vous, dans votre cœur. Bon. C'est une grande bénédiction. Le monde n'est pas en paix, mais laissez-moi vous dire que ce n'est rien. Parce qu'il y a écrit à un moment donné qu'il va y avoir le puits de l'abîme qui va s'ouvrir avec des démons qui sont enfermés là depuis l'éternité et ça, ils n'ont pas l'air commodes. Les démons qui vont être libérés pendant la grande tribulation, laissez-moi vous dire qu'il va falloir pas s'y frotter. Mais c'est eux qui vont venir se frotter aux gens. Et ce que mes frères et sœurs, mais les gens, vous le croyez ces choses? Vous le croyez? Regardez Apocalypse chapitre 9. Je vous parle de ça parce que si on n'a pas la foi, c'est ce qui va arriver. C'est ce que vous allez vivre, mes frères et sœurs. Et il faut apprendre. Mais M. Gault, il l'avait dit. Eh bien oui, je vous l'ai dit. Mais convertissez-vous ou reconvertissez-vous. Repentez-vous. Faites un choix ce matin. C'est sérieux. Regardez Apocalypse chapitre 9. C'est les trompettes. Les trompettes, c'est vraiment des malheurs. Les trois dernières trompettes, c'est vraiment trois malheurs. C'est écrit au verset 13 du chapitre 8. Mais on va lire. On va lire pour vous dire, parce que ce que je vous dis, c'est sérieux. Vous comprenez bien que je ne vous le dis pas sur le coup de la passion. Je vous le dis parce que c'est la vérité. Apocalypse 9, verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui venait devant Dieu. Et disait au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Oui, j'ai lu ça hier parce que vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu, tout ce qui est en train de se préparer au niveau de l'Euphrate. Je ne sais pas si vous écoutez les informations, mais peut-être qu'après ce que je vous ai dit, vous comprendrez qu'il est en train de se passer des choses du côté de l'Est et de l'Ouest au niveau de l'Euphrate et que je vous assure que ça ne sent pas bon. Regardez bien, c'est pour ça que j'ai lu ce texte. Et les quatre anges qui étaient prêts, regardez bien comment c'est précis. Pour l'heure, tout est préparé. Le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent. Comment vous avez écrit ? Le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades. 200 millions de soldats. Alors, il y a 50 ans, on aurait dit, mais c'est impossible. Et quand vous voyez comment la Chine a une armée aujourd'hui, l'armée de la Chine. Regardez le verset 18. Mes frères et sœurs, non mais c'est sérieux. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux. On est 7 milliards 250 millions d'habitants. Ça vous donne une idée de la quantité de personnes qui vont mourir pendant les trompettes. Regardez le verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons. Verset 21. Ils ne se repentirent pas. Mais regardez ce qui s'est passé. Vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière? Il y a 150 ans en arrière, on aurait dit allez à l'église, à toutes les églises. Là, le mot d'ordre a été donné mardi soir à Paris. Comment c'était le mot d'ordre? Tous au bistrot. Vous voyez comment les gens se repentent? Tous au bistrot. Faites du bruit. Faites du bruit, oui. Quand j'entends que dans les églises, on en est là, faites du bruit. J'ai entendu ça, moi. Mes frères et sœurs, et les gens, ils dansent là-dessus. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, qu'il faut être sérieux. Il faut travailler à son salut. Vous avez vu, le tiers de l'humanité va mourir. L'église, quand l'église va être enlevée, le Seigneur ne sera plus assis sur le trône de la grâce. Aujourd'hui, 22 novembre 2015, vous pouvez être sûr que la porte est ouverte et vous devez rentrer. Je m'adresse à ceux qui ne sont pas baptisés, à nos enfants qui ne sont pas baptisés. Mais remuez-vous, bougez-vous, convertissez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Un signe? Et si Dieu ne veut pas vous le donner, le signe? Est-ce que Dieu est obligé de vous donner un signe? Mais non, Dieu n'est pas obligé. Mais pour qui on est? Pour qui on se prend? Ah, mais moi, quand je vois le témoignage de mes parents, non, mais franchement, je ne suis pas prêt de devenir chrétien. Il s'est écrit dans les 10 commandements, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, mais si tes parents ont un mauvais témoignage, tu peux y remédier. C'est écrit comme ça? La Bible dit à tous les hommes, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et qu'est-ce que vous allez dire au Seigneur? Ah, mes parents, ils étaient charnels, mes parents, ils se disputaient souvent à la maison, ça ne m'a pas donné envie de me convertir. Vous allez aller dans l'enfer parce que vos parents avaient un mauvais témoignage? C'est ça que vous voulez? Et puis en vous convertissant, vous pouvez être une bénédiction. Moi, franchement, je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais quand je me suis converti, sincèrement, j'ai été une bénédiction pour ma famille. Vraiment. Mais quelle grâce! Une fois, fortifie-toi. Vous lirez ce chapitre. Comment un homme peut être fortifié? Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Tu vas remplacer Moïse, tu vas être un grand chef d'État. Tu vas être le meilleur chef d'État qu'Israël a jamais connu. Donc tu vas t'occuper de l'armée. Tu vas faire ceci. Tu vas faire attention à ce que les routes soient toujours prêtes. Vous savez, l'armée, il y a toute une stratégie dans l'armée. Non. Dieu dit à Josué, écoute Josué, seulement fais une chose. Médite la parole. Jour et nuit. Médite-la afin que tu sois fortifié. C'est écrit? C'est écrit ou c'est pas écrit? Josué chapitre 1er. Fortifie-toi seulement et bon courage afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'était un chef d'État parce que nous, on voit ça, Josué, c'est un serviteur. Non, Josué, c'était un chef d'État. C'était un président d'une nation. Et Dieu lui a dit, écoute, tu veux réussir? Fortifie-toi. Voyez, on se fortifie dans la grâce, parce qu'une foi, je le répète, la foi sans la grâce, ça ne va pas aller bien loin. La foi, elle est toujours conjuguée avec la grâce. Ce n'est pas possible autrement. La foi, elle est conjuguée à la méditation de la parole de Dieu. Je veux méditer la parole de Dieu. Voyez, moi j'étais content cette nuit, même si je n'ai pas beaucoup dormi, de voir que les anges, il y en avait quand même un petit nombre. Hein. Quelle bénédiction. Moi je suis sûr qu'il y en a des anges, partout, qui nous gardent. Hein. Qui nous garde. Je me souviens de ce frère qui est parti. Je me rappelle, il est parti et il est parti à l'enfer. Quelques mois avant, il m'avait acheté une Mercedes. Bon, je ne suis pas contre, moi. Vous pouvez rouler une Mercedes, moi, ça ne me gêne pas. Ce n'est pas un problème, ça, que vous roulez une Mercedes. L'autre jour, j'étais dans une église, il y a un monsieur qui me dit, Monsieur Gaud, je sais que vous êtes un homme de Dieu. Il me dit, voilà, il y a des chrétiens qui me critiquent parce que j'ai acheté une voiture de sport. Et c'est vrai qu'il avait une belle voiture. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous empêche de servir Dieu et de donner votre dîme? Mais non, monsieur Gaud, au contraire. Eh bien, c'est pas grave de rouler une voiture de sport ou un Clio. Ce qui est important, c'est d'obéir à Dieu. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Ce qui est important, c'est d'obéir à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ma foi, elle soit vivante? On a un cantique, je l'ai demandé d'ailleurs, ma foi est vivante. Vous pouvez le mettre même si on ne le chante pas. Ma foi est vivante en un Dieu vivant. Quand David s'approche de Dieu, il dit, j'ai soif du Dieu vivant. Est-ce que vous réalisez que Dieu est vivant? Il est vivant, un peu plus vivant que nous-mêmes, voyez? Et je veux être fort. Je veux me fortifier. Paul, il était embarrassé avec cette épreuve. Voilà, une écharde dans la chair, c'est pénible, c'est pas grave. Ma grâce te suffit. Mais vous le croyez, ça, que la grâce de Dieu vous suffit? Mais moi, je le crois. Vieux, jeune, en bonne santé ou pas, que je traîne ma patte ou pas. Mais c'est pas grave, ça. Le corps, on sait très bien qu'il ne va pas faire en s'améliorant. Ne vous affligez pas parce que, oh là, j'ai mal au dos. Ah, j'ai sous le même pot de peinture. Ah, j'ai le dos bloqué. Oh, Seigneur, je ne comprends pas. Quel âge vous avez? J'ai 90 ans. Ah, c'est clair. Mais on l'entend, ça. Non, mais sérieusement. Est-ce que c'est normal de se déglinguer à 90 ans? Moi, je peux vous dire qu'on peut se déglinguer avant. Je peux témoigner de ça. Mes frères et sœurs, ce qui est important, ce n'est pas d'être déglingué ou d'être en super bonne santé. Ce qui est important, c'est d'avoir une foi vivante. J'ai gardé la foi. Paul est à la fin de sa vie, dit « j'ai gardé la foi ». Il avait toujours son écharpe à tous les coups. Il n'y voyait presque rien. Il l'a gardé, puisque Dieu lui a dit « écoute, je ne veux pas que tu t'enorgueillisses ». Ah, mais c'était Paul. Mais est-ce que vous croyez que Dieu veut que vous vous enorgueillissiez? Est-ce qu'on peut s'enorgueillir? Est-ce qu'on ne peut pas s'enorgueillir? Eh ouais. Mais tout le monde peut s'enorgueillir, parce qu'on a fait une expérience, parce que si, eh bien Dieu, pourtant c'était quand même un de ses enfants bénis. Jacob, c'était pas un enfant béni, il meurt en prophétisant. Eh bien toute sa vie il a boité, toute sa vie il a boité, toute sa vie, quand il a été béni justement. Fortifie-toi dans la grâce, Seigneur, je m'approcherai du trône de la grâce. Seigneur, je vais méditer ta parole, je vais prendre peut-être, tiens, tel livre, et je vais le méditer, mais l'Apocalypse, quand vous l'aurez lu 50 fois ou 100 fois, je peux vous dire que vous comprendrez plein de choses. Mais sûr, si vous dites, oh, moi je ne le lis pas, j'y comprends rien. Le livre du Lévitique, vous aimez le livre du Lévitique? Vous le lisez souvent, le livre du Lévitique? Hein? C'est votre livre préféré? Non. Pourtant, c'est tout un livre, enfin, mais c'est vrai qu'il faut l'expliquer. Mais c'est tout un livre sur la sainteté, sur l'importance de la sainteté. Ça vaut quand même la peine peut-être de prier, de dire, Seigneur, éclaire-moi par rapport à ma marche dans la sainteté. Et je termine donc avec Abraham. Vous avez vu Abraham? On l'a lu tout à l'heure. Il ne considéra pas son corps. Il avait presque 100 ans. Sa femme était bien plus jeune, bien sûr, puisqu'elle n'avait que 90 ans. Mais il n'a pas considéré ni son corps, ni celui de sa femme. Dieu lui a fait une promesse. Et Seigneur, je crois dans tes promesses. Mes frères et sœurs, Jésus va revenir. Il l'a dit, je ne sais pas combien dans sa parole, il va revenir. Et il prendra tous ceux qui l'attendent, qui obéissent. Ce matin, plusieurs, vous devez vous ressaisir. Et ne pas dire, bon, je suis dans l'église, c'est bien. On est bien dans cette église, c'est bien. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous puissiez dire, ma foi, elle est vivante. Dans un Dieu vivant. Bon, oui, le bonheur d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Après, si vous avez des épreuves, si vous n'êtes pas toujours heureux. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si on n'est pas toujours heureux. Le plus important, c'est d'avoir une foi vivante.